Donc ce matin, nous allons parler d'un sujet intéressant, et cet après-midi aussi d'ailleurs, enfin, suite ce matin, est plus existentiel. Et il m'intéresse d'autant plus que je l'ai parcouru moi-même, peut-être certains d'entre vous. Je suis né dans une famille catholique classique, mais j'ai perdu la foi, et je l'ai retrouvé, je l'ai perdu à 15 ans, je l'ai retrouvé à 21 ans. Donc je sais un peu, enfin, un des chemins possibles pour les convertis. Et puis actuellement, je m'occupe de certains convertis en provenance du monde islamique et de quelques autres aussi. Donc c'est une chose très intéressante parce qu'il y a des convertis, il y a des possibilités de conversion et il faut que nous, ils nous appellent les frères aînés, enfin mes kabyles et mes arabes catholiques nous disent « vous êtes les frères aînés ». Il faut que les frères aînés s'occupent des conversions. D'abord en priant. Alors j'ai fait un premier paragraphe, grand A, une phrase avec un point d'interrogation, qui est tiré de saint Dominique. Que vont devenir les pécheurs? Il faut avoir le seul souci du salut des âmes. Et actuellement, la motivation des chrétiens pour les conversions est un peu faible. Il y a une sorte d'apathie dans pas mal de milieux, pas partout. Mais quelquefois, on pourra aller prendre des leçons, c'est les évangélistes, uniquement pour ça, pas pour la doctrine. Parce que voilà, il ne faut pas hésiter à savoir que c'est utile de devenir catholique et ensuite à prier pour que les gens le deviennent. Puis après, on verra dans le grand C qu'est-ce qu'on fait pour se bouger, pour les aider à venir. Vous voyez ? Mais d'abord, grand A, il y a actuellement deux obstacles par rapport à la pensée, si vous voulez. La lumière sur le principe du salut est obscurcie par beaucoup d'erreurs, d'indifférentistes, de relativistes qui ont été stigmatisés sans arrêt depuis Pie IX jusqu'à Benoît XVI, même par Paul VI, où l'idée se répand que finalement toutes les religions sont des voies de salut à peu près équivalentes. Tout le monde m'entend bien là au fond, ça. Et que même les non-religions sont aussi des voies respectables. Alors les hommes sont respectables, mais les voies non. Donc il y a une grande erreur. Alors j'en ai mis deux, erreur sur la nature même de Dieu. Dans cette perspective, la vérité n'a aucune importance pour les rapports entre Dieu et l'homme. C'est le relativisme. C'est-à-dire que c'est assez curieux. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre ça. Bouddha, Mohamed, Jésus, kif-kif bourricot. Enfin, je simplifie un peu, mais... Oh ben, les gens vous disent, ben, oh, Dieu, s'il existe, hein. Il est bien au-dessus de ces petits détails, quoi, vous voyez. Il y a une profonde erreur qui est en fait un désespoir de l'homme. L'homme ne se rend pas compte qu'il est à l'image de Dieu. Et que les qualités qu'il a, lui, il a quand même quelques qualités, enfin, il faut peut-être les regarder aussi un peu, au lieu de déprimer du soir au matin. Ces qualités de personne, d'intelligence, de volonté, ben, elles se trouvent forcément en Dieu, si Dieu existe. Hein? Et à un degré énorme, en particulier l'intelligence. Si Dieu existe, eh ben, il est tout à fait d'accord avec le principe de non-contradiction. Une chose ne peut pas être ce qu'elle est et ne pas être ce qu'elle est. Hein, le premier jugement négatif que l'intelligence porte au contact du réel. Et c'est très important. C'est-à-dire, Dieu s'occupe de la vérité, il est lui-même la vérité. Vous voyez. Donc la vérité a de l'importance dans mes rapports avec lui. Et donc il faut tout à fait réagir... En s'appuyant par exemple sur la deuxième épître à Timothée, Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc il y a un lien entre la vérité et le salut. La volonté salvifique universelle de Dieu se concrétise par un chemin, bon, offert à tous les hommes, pour adhérer à la vérité. C'est très très important. Et si on perd ça de vue, ben évidemment, on pense que c'est surtout la sincérité qui compte. Ce qui est vraiment idiot, parce que ce soit politiquement, enfin, autrefois, quand on a une notion saine de la politique, dans une entreprise, dans une famille, on sait très bien que la vérité a de l'importance. Même si le gamin ou la belle-mère est sincère, ben, peut-être qu'ils disjonctent quand même et qu'il faut réagir contre leur disjonction, quoi. Ça a de l'importance pour que les choses se passent bien. Vous voyez que si on se trompe sur la nature de l'homme ou sur le chemin à prendre dans la vie, ça a de l'importance concrète. Alors ce qui aurait de l'importance dans notre monde, on a aussi dans le rapport avec la source du monde qui est Dieu. Donc ça, il y a un point quand même très important. Et Jean-Paul II a rappelé dans l'encyclique que j'ai citée hier dans le, L'hommage que j'ai voulu rendre au Saint-Père a souligné la capacité métaphysique de l'intelligence. Et en fait, c'est la clé de toute la crise, à la fois sociale, culturelle et religieuse, depuis Kant, mais surtout, depuis le rationalisme des Lumières et puis le rationalisme du 19e. Donc, est-ce que l'intelligence peut atteindre autre chose que des données factuelles, élaborer des données factuelles ou être virtuose en mathématiques? Est-ce qu'elle peut atteindre le fond des choses? D'instinct, on répond oui, quoi. Il n'y a que la modernité qui arrive à dire mais non, mais machin, tu atteins ta représentation, etc. Mais c'est contre nature. Ce qui fait qu'après, ça ouvre une porte à des propositions plus brutales en disant ça foire, il faut adhérer au Coran, ou autrefois c'est au marxisme, enfin un truc bien béton, où il y a une vérité factice d'ailleurs, enfin, au moins pour le marxisme et partiellement pour l'islam. Mais vous voyez, c'est tellement contre nature de dire que la vérité n'a aucune importance que quand on la refile par-dessous, là, avec pas mal d'erreurs, soit dans les totalitarismes intellectuels, soit dans des fausses religions, soit dans des sectes, soit même avec le diable. Le diable n'a jamais eu autant de succès que ces derniers temps, quoi. Il existe, c'est une vérité qui existe. Hein. Bon. Alors donc ça, c'est important de réagir contre le relativisme, hein, et de ne pas réduire l'apostolat au témoignage existentiel. C'est vrai qu'on verra, c'est très important, mais si vous faites que du témoignage existentiel, celui qui a de l'exigence intellectuelle, il dira, vous êtes des marrants, quoi, parce que moi, je ne ressens pas comme vous. Tu vois, mon ressenti, c'est que moi, j'ai mon ressenti qui me dit que Jésus est très gentil, quoi. C'est vrai qu'il est très, il est plus que gentil, mais finalement, c'est ton ressenti, j'en suis très heureux pour toi, moi, j'ai un autre ressenti, quoi. Hein? Donc, il faut aller plus loin, oui. Et je crois qu'il faut faire attention, parce que moi, enfin, j'en ai souffert comme adolescent, c'est aussi pourquoi j'ai fondé notre fraternité, c'est que maintenant, vous êtes différents, mais enfin, j'espère, déjà, vous avez plus de choses que nous n'avions. On ne se rend pas compte que le gamin à 12 ans, surtout le garçon, est métaphysique. Donc il faut vraiment qu'on soit capable de lui indiquer le bon chemin, au moins de lui donner le bouquin, le cours à suivre, le prêtre à voir, et qu'il est prêt disponible pour ça. C'est pour ça qu'on en a fait les Dominicains. Hein, vous avez aussi des capacités pour ça, mais c'est très important. Oui. Si, vous répondez, si on n'essaye pas de répondre ou de mettre sur le chemin de la réponse, d'autres ou disent, ils penseront qu'il n'y a pas de réponse, ou ils penseront que pour vous l'important c'est votre profession, ce qui est très important, ou le cheval que vous faites le samedi, ou je sais pas, le parti de bridge, ou etc. Quoi. Parce que si vous n'êtes pas motivé pour répondre à leurs vraies interrogations, hein, pourquoi il y a quelque chose, quel est le sens de la vie, pourquoi le christianisme est vrai et pas les autres, est-ce qu'il est vrai, etc. Il faut vous documenter, donc là, c'est bien que vous avez plus maintenant d'éléments pour répondre, mais c'est très très important. Parce que sinon, les gamins perdent la foi. Hein. Toutefois, c'est surtout les garçons, mais maintenant avec... l'égalité, tout le monde la perd. Enfin, surtout les grands-pères, parce qu'on se dit, bon, les grandes personnes, ils s'en foutent, on va chercher ailleurs. Donc important, vous voyez, d'en avoir, même ça ne veut pas dire qu'on va tous être des grands philosophes, mais vous avez les bouquins de Doja, le bouquin culte du MJCF d'autrefois, peut-être encore aujourd'hui, existe-t-il une vérité? Enfin, il y a une dogme formidable aujourd'hui, quoi. Il faut s'en préoccuper, et surtout penser que c'est important. Pourquoi, je dis toujours pourquoi, réfléchissez pourquoi le gamin dit pourquoi, quoi. C'est intéressant. Alors on a l'impression qu'on perd son temps, mais non, on ne perd pas son temps. Ni en métaphysique, ni dans ce genre de choses, on perd son temps. C'est apparemment inutile, en fait c'est fondamentalement utile. Donc voilà, une motivation pour réagir contre le relativisme. Et bon, je crois que Ratzinger, enfin, Benoît XVI, nous a indiqué le chemin, en particulier dans une conférence que j'ai brièvement citée hier, que je trouve tout à fait fascinante, qu'il a faite en novembre 1999 dans une salle à la Sorbonne, présentant le christianisme comme la religion qui a la prétention de la vérité. À partir d'un texte d'un vieil auteur latin qui disait il y a la religion poétique, il y a la religion politique et il y a la religion physique. Hein. Et le christianisme, c'est plutôt du côté de la religion physique, c'est celle qui s'occupe du réel, qui prétend saisir les choses, et pas simplement des religions qui ont pour but de faire le ciment social pour que la société soit appuyée sur la divinité de la cité ou la divinité de l'empereur, ou des religions poétiques du type des mythologies, qui ne prétendent pas à la vérité. Mais même actuellement, vous voyez, je pense que pour la plupart des hindouistes, toute une partie de leur foisonnante mythologie est une religion poétique. Alors pour eux, c'est des tremplins vers la contemplation, si vous voulez. Mais ils ne disent pas, c'est vrai que Vishnu a 42 bras ou 47, je ne sais pas combien il en a, ils s'en foutent. De même que les plus intelligents des Grecs, tous les détails des cochonneries de Zeus et compagnie, ou de même des choses bonnes qu'il faisait, c'était que des chemins poétiques vers la vérité, mais ça ne présentait pas de la vérité. La différence du christianisme, c'est qu'il se présente comme la religion qui dit « ce que je dis est vrai ». Je vous raconte une histoire, Dieu s'est incarné là, dans un coin, vous pouvez aller voir là. Donc c'est très intéressant, la religio vera, hein, à partir d'un texte de Varron, on trouve cette conférence, donc 27 novembre 1999, de Ratzinger qui est... Alors je crois que c'est intéressant parce qu'il y a un retour du religieux, c'est vrai, mais qui est souvent finéiste. Hein, c'est bien d'être enthousiasmé par la foi, mais elle doit s'appuyer sur la raison. Les conférences, les grandes interventions à Ratisbonne et au Bernardin sont essentiellement dans cette ligne-là. Le message essentiel de Ratisbonne, c'est qu'il y a une alliance entre la raison grecque et la révélation biblique. Alors l'affaire d'Islam a occupé tout le devant de la scène, malheureusement. C'est vrai que citer comme un prof toute une sortie de son contexte tout ce qu'un grec du XIVe siècle peut penser de l'islam, bon, c'est peut-être dommage qu'on n'ait pas... Enfin, ça s'est passé comme ça, c'est là où il y a eu des morts, hein. Il y a eu des religieuses qui ont été assassinées à la suite. Bon, je ne le reproche pas au Saint-Père, hein. C'est le pape, mais... mais le but, c'était pas ça, c'était pour, en fait, les protestants l'ont senti, c'était pour attaquer l'irrationalisme, le fidéisme et l'abandon de l'alliance entre la raison et la foi. C'est extrêmement important ce discours, je crois, restera, parce que c'est vraiment... Si les Grecs sont importants, pour une part de ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit le vrai. C'est comme le théorème de Pythagore, c'est pas que c'est Pythagore, mais c'est passé vrai. Les Grecs, je dis pas qu'ils ont inventé l'intelligence, mais ils ont travaillé à sa mise en forme d'une façon qui a réussi comme aucune civilisation ne l'a fait, même pas, malgré toute sa grandeur, le confucianisme chinois. Qui est très grand, mais magnifique, et ça aurait pu être... Mais non, c'est pas eux qui... Ce qui ont abouti, c'est les Grecs. Et ce qui a suivi après le juridisme romain. Non, c'est quand même très important, vous voyez, ces éléments-là. Donc, réaction contre le relativisme. La vérité est importante, l'intelligence atteint l'existence d'une première cause de l'univers, etc. Et même peut militer en faveur de la vérité du christianisme. Et puis ensuite, erreur sur les médiations, sur le Christ et sur l'Église. Et là-dessus, il y a beaucoup d'erreurs. On oublie l'importance du fait que Dieu s'est incarné et que l'Église est la prolongation de cette incarnation. Si on met ça de côté, ou si on dit c'est pas très grave, on peut très bien, et de la même façon, se sauver dans le protestantisme, ou dans le judaïsme, ou dans l'islam, on est tout à fait en dehors d'un grand trésor, qui est trésor du vrai. C'est vrai que, aussi que Dieu aide les gens qui sont en dehors, mais il les aide par des grâces qui viennent du Christ, et pour les amener vers le Christ. On trouve des textes chez Pie IX et chez Pie XII, tout à fait explicites, qui ont ensuite été développés dans Vatican II, entre autres, dans les papes suivants, mais c'est déjà dans l'enseignement de l'Église, Dieu n'abandonne aucune personne. Mais on ne sait pas qui, justement, est dans la bonne foi nécessaire pour être invisiblement membre du Christ et invisiblement membre de l'Église. Et donc Pie XII nous dit, le Saint-Esprit travaille ceux qui, par un vœu implicite, sont membres secrètement de l'Église, sans même le savoir parfois, et les invite à sortir d'un état où nul ne peut être sûr de son salut. Alors ça, on a oublié cette partie-là de l'enseignement. Dieu propose à chacun, Vatican II l'a rappelé, un chemin pour le salut, hein, mais le Saint-Esprit travaille pour que les gens montent jusqu'à l'adhésion au Christ, au moins au moment de leur mort, par des voies connues de Dieu, mais justement connues de Dieu, pas connues de nous. C'est pour ça que si quelqu'un se présente, il faut essayer de lui montrer la... Vous voyez, le Christ nous a pas dit « Allez et dialoguez avec les mecs à droite à gauche tout le temps ». Il faut dialoguer, d'accord. Mais dites aussi « Je suis la voie, le chemin et la vie hein. ». Donc et c'est vraiment dommage de le garder pour nous et de ne pas le donner aux gens. En fait, je crois qu'il y a un profond... On sous-évalue nos richesses et on méprise l'attrait de l'homme pour la vérité. Ça m'a toujours beaucoup frappé, ça, vous voyez. La richesse de la vérité, les convertis en sont très, très, très pénétrés, et nous, on est peut-être trop habitués, donc pas d'erreur indifférentiste. Hein. Tout homme qui est sauvé par le Christ, même s'il ne le sait pas, et pas de faux œcuménisme. Hein. L'Église est le corps du Christ, l'Église romaine, l'Église qui est à Rome, même s'il y a des sacrements valides chez les orthodoxes et chez les protestants, n'empêche que la plénitude de la vérité de l'incarnation est dans l'Église. Et c'est une richesse, oui. Je connais un peu les orientaux, hein, séparés et non séparés. Mais je peux vous dire qu'on touche du doigt combien le primat pontifical est une richesse pour la vérité de la tradition. Donc voilà, ça c'est les erreurs, si vous voulez, qui font que, bon, ben, on ne se bouge pas, on n'a pas conscience d'abord que la vérité du christianisme et de l'Église est importante pour le salut des âmes. Que vont devenir les pécheurs, disait notre Père Saint-Dominique. Ben, ils se perdent, les pécheurs. Donc c'est ça l'origine des vocations, vous voyez, je crois, surtout apostolique, c'est dire, bon, que vont devenir les pécheurs, il faut aller les chercher, quoi. Et donc les religieux ou les prêtres, spécialement, pas uniquement eux, mais essayent d'aller les chercher. Ensuite, l'angoisse apostolique, voilà, c'est ça. Le salut est proposé à tous, mais tous n'y arrivent pas. C'est explicitement dans certains conciles, et puis c'est la réalité. Moi j'ai 36 ans de confession, et pas seulement de confession, mais de discussion dans le métro, le RER et l'autostop, mais je peux vous dire que c'est vrai. Des gens qui ne se préoccupent pas, disait Pascal, enfin disant, bon, c'est pas parce qu'on a discuté un quart d'heure avec quelqu'un qu'on a cherché la vérité de tout son cœur. Hein. Pour passer, pour intégrer une grande école, ou pour passer votre CAPES, ou je sais pas quoi, il faut bosser comme un malade pendant 2 ans. 3 ans si vous faites 3,5, quoi. Ou pub, bon. Ou je sais pas quoi, mais enfin, il faut se bouger. Alors, pour trouver la vérité métaphysique, je lis un bouquin, je regarde vaguement une émission sur Arte ou sur un truc, puis ah, je cherchais, je sais pas, non, ça me satisfait pas, bon. Puis après, on joue au bridge, au mieux, quoi, enfin. Hein. Et Pascal a un passage très beau là-dessus. Il dit, ça m'inspire aucune pitié. Celui qui cherche et qui ne trouve pas, moi j'en connais, vous en connaissez, on en connaît. Ah, c'est émouvant. Et je pense que Dieu va le faire monter. Il cherche, il ne trouve pas, il cherche. Voilà, mais c'est son souci. Hein. Mais celui qui dit, bon, je cherche le moins possible. Malheur à celui qui cherche des prétextes, disait le cardinal Journet, parce qu'il les trouve. Je n'ai pas le temps. Quand je suis trop jeune, je ne sais pas. C'est vrai. Quand je suis jeune homme, je suis amoureux. Quand je suis jeune professionnel, je bosse. Quand je suis vieux, alors là, à 60 ans, on est surbooké, parce que là, il y a les petits-enfants, il y a tout ça, on n'arrête pas. Ceux qu'on voit dans le TGV, qui sont les papis, qui font le 100 mètres en 11 secondes, là. Et alors ceux-là, ils sont très sollicités, puis après, on est mort. Voilà, on n'a pas eu le temps. Mais arrête-toi, fais un goum, arrête-toi, va en prison. Enfin, on en parlera avec Schwenitzin, calme-toi, réfléchis dans ta tête. Donc voilà, il y a une erreur, tout le monde ne se sauve pas. Et je crois que c'est une erreur sur la dignité de l'homme. Parce que dire tout le monde se sauve, c'est dire vous êtes tous des chiens. Et de toute façon, vous rentrerez tous à la niche, à la mort. Terminé, les mecs. Hein. Content, pas content, vous êtes tous sauvés. Eh ben, merde. Excusez-moi, moi, je vous dis ce que j'ai vécu quand j'étais adolescent. Merde. Bon, à l'époque, il y avait moins de toutous comme ça. C'était bon. Mais il y en avait déjà quelques-uns. Yagnagna, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est pas vrai. Laissez les révoltés être des révoltés, laissez les méchants être des méchants. Enfin, je les encourageais pas. Hein. D'accord. Mais je veux dire, attendez, faut arrêter cette espèce de truc. C'est une catastrophe, ça. S'il y a des gens qui passent à l'islam et au judaïsme rigoureux, c'est parce qu'ils disent, mais c'est de la gnognotte votre affaire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, ça, c'est pas difficile à vérifier dans notre vie. Bon. Et puis moi, je me connais. Je sais, c'est Joseph de Metz, je crois, ou un gars de cet acabit qui disait, je sais pas ce qu'est la conscience d'un truand, bon, hein, mais je sais ce qu'est la conscience d'un honnête homme, et c'est pas joli. Bon. Donc voilà, faut. Et c'est une question de dignité, si vous voulez. Il faut répondre librement. Et je suis frappé, je vous ai parlé des fins dernières, mais dans l'époque moderne, en France, à part Molinier, le père Bott, qui est d'origine de ce diocèse, et moi, excusez-moi du peu, les fins dernières, personne n'a écrit le bouquin dessus. Hein. Moi, j'étais le premier. Enfin, le second après Molinier, quoi. Fin dernière, pas besoin d'en parler. Hein. C'est, oh, cool, cool, là, Dieu est bon, machin. Dieu, c'est un gros rat locum tout mou sur son siège. Vous parlez de Dieu aux gens, tout le monde s'endort. Vous parlez du diable. Intéressant, le diable, il a plus de tempérament que Dieu. Chez les catholiques gélatineux, c'est comme ça. Bon. Mais bon, donc voilà, tout le monde ne se sauve pas simplement parce qu'on peut dire non, quoi. Moi, ça m'est arrivé de prêcher un enterrement comme ça en disant il faut. Ouais, on a deux voix, on peut se révolter aussi. Hein. Bourgeois n'a pas le temps de se révolter, il s'endort dans sa médiocrité. Mais il y a des saints, il y a des révoltés. Plus qu'on pense. Hein. Donc voilà, angoisse apostolique, il faut proposer le salut pour que les gens répondent, et ils sont libres de répondre, voilà, ils sont debout devant Dieu, et nous les encourageons à être debout. Mais il ne faut pas dire, c'est automatique. Alors ça, c'est le premier point, la motivation. Et donc, retrouvons la motivation contre le relativisme, l'indifférentisme, l'œcuménisme faux, parce qu'il y a un œcuménisme juste, celui de Benoît XVI, par exemple, qui a beaucoup rayonné sur les Grecs et les Russes, en fait, mais pas seulement sur eux, parce que c'est l'œcuménisme de la vérité. Et puis, l'idée que tout le monde est sauvé. Ou que c'est facile, etc. Bon. Alors maintenant, deuxième point, ça je vous ai donné aussi un deuxième petit tableau là avec un certain nombre de convertis. Quel est le concrètement, j'ai essayé de réfléchir à partir de mon point de départ, ça a été mon expérience des convertis venant de l'islam. Fadel et quelques autres que je connais. Et j'ai marqué qu'il y avait certains éléments qui me semblaient communs dans leur chemin. Mais en fait, bon, il y a des éléments communs et puis c'est très variable. Hein. Mais il y a quand même des grandes lignes, vous voyez. Dans le passage de l'absence de foi théologale à la foi théologale, j'ai remarqué trois aspects qui correspondent à la nature de la foi. La foi est une adhésion de l'intelligence. Donc ça, c'est le petit A contenu pour l'intelligence. La foi est une vertu qui est dans l'intelligence. J'adhère au credo catholique. J'adhère d'abord au fait que Dieu existe, que bon, et qu'il s'occupe des hommes, et puis après tout le détail, qu'il s'est incarné, etc. Bon, et il y a un contenu. Ensuite, ça suffit pas. Il faut que ce contenu me soit présenté comme crédible. Donc il y a des signes, des miracles, des prophéties, des choses. Il y a des signes qui mettent en mouvement. Parce que ça, c'est pas comme si on vous présente, je sais pas, l'équation de Schrödinger, que vous êtes assez fort pour suivre la démonstration, vous dites c'est bon. Hein, ou la somme des angles d'un triangle, c'est bon. Hein, vous ne pouvez pas dire non. Ou alors vous dormez près du radiateur, quoi. Un cancre de la pire espèce. Bon, d'accord. Mais si vous écoutez le prof, votre intelligence adhère automatiquement parce que votre intelligence saisit l'être et la vérité. Mais là, c'est des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que le Christ est Dieu? Est-ce qu'il y a trois personnes dans la nature divine? Je ne vois pas. Donc il faut des signes. Hein. La signature de Dieu au bas de son message, c'est le miracle, c'est la prophétie, c'est des signes qui montrent qu'il est raisonnable d'adhérer. Oui. Hein, voilà. Et ces choses-là sont présentées d'une façon ou d'une autre par l'Église. Par les chrétiens, par l'Église catholique en particulier. Et donc j'ai remarqué à partir de là, vous voyez, la foi est une adhésion de l'intelligence à la vérité révélée par Dieu et présentée par l'Église sous la motion de la grâce. C'est la définition qui est rappelée par le catéchisme de l'Église catholique. Adhésion de l'intelligence sous la motion de la volonté mue par la grâce, bien sûr, parce que la volonté doit intervenir dès qu'on ne voit pas. Vous pensez que vos parents sont bien vos parents, ils vous ressemblent, d'accord, vous leur ressemblez, mais enfin, il y a quand même un acte de foi humaine. Mais c'est raisonnable. Donc la volonté intervient, vous voyez, pour faire... Vous pensez que Napoléon a pris quand même une légère veste à Waterloo, enfin, la plupart d'entre vous pensent ça, hein, vous n'y étiez pas. Mais votre volonté pousse l'intelligence à adhérer, c'est normal, sinon, la vie humaine est tissée de foi humaine tout le temps. Vous montez dans un avion, vous avez beau critiquer la modernité, vous avez un jugement crédible que le... Ça a bien été calculé, et puis qu'on a révisé les pneus, quoi, bon... Excusez-moi, mais tout le monde fonctionne à la fois. Hein. C'est... Bon, donc la volonté intervient, mais là, comme c'est surnaturel, il faut que la grâce pousse. C'est pour ça que la grâce est capitale, c'est pour ça que la prière des chrétiens est fondamentale. Et on adhère aux vérités présentées par l'Église. L'Église n'est qu'un, si vous voulez, l'instrument, elle nous présente, voilà, le Christ c'est Dieu, le Christ c'est homme, la Trinité c'est ça. Mais on adhère à cette réalité mystérieuse. Oui. Alors, j'ai remarqué, j'ai essayé de remarquer, j'ai lu il y a eu une série de petits bouquins qui s'appelait Les convertis du XXe siècle, qui a été fait par des jésuites qui font des tas de choses très. Ça vous étonne, hein, je dis du bien des jésuites. Surprenant. Hein. Mais je dis un bien que je pense, et ils sont très, très pratiques. Ce qu'il faut, c'est qu'ils fassent raison, qu'ils aient la foi. Là, c'est bien, quoi. Qu'il ne soit pas marxiste. Parce que je vous dis, c'est une chose que j'ai vécue, moi pratiquement. Ou purement technocrate, ça c'est aussi une chose que j'ai vécue. Bon. Mais enfin, les jésuites sont des gens très bien. Et ils font des choses intéressantes. Et ils ont fait cette série de ces jésuites belges, enfin entre autres, qui avaient fait cette série convertie du XXe siècle, il y a 5 volumes, j'en ai lu 2. Et j'ai essayé de mettre en forme. Alors là, vous avez une primeur, là. Vous gardez ça dans vos archives secrètes ou publiques. J'ai mis ça en forme pour dire, tiens, est-ce que dans ces convertis, et là c'est même classé grâce à l'ordinateur, qu'est-ce qu'on est moderne, par date de naissance, hein. Est-ce que ces types-là ont vécu un peu ce qu'a vécu Fadel et d'autres convertis de l'islam, qui ont eu, voilà, qui ont qui ont été frappés par la beauté de l'évangile, d'un contenu pour l'intelligence, spécialement de Saint Jean, qui ont eu très souvent un rêve, un miracle, une locution. Une locution, c'est une parole intérieure, ou au moins une coïncidence hyper-providentielle, hein, et qui ont rencontré la charité de l'Église. J'ai marqué que c'est leur chemin, à peu près. La charité de l'Église n'est pas un peu plus difficile à trouver, quoi, mais elle est nécessaire pour conclure le processus. Alors, est-ce que c'est ça? Eh bien, ça marche sauf quand il y a une étoile ou un blanc dans mon papier, quoi. C'est que j'ai trouvé que... bon, d'ailleurs, on pouvait se l'imaginer avant de lire, mais prenons par exemple à la page 2, Edith Stein. Bon, justement, c'est un exemple où j'ai pas trouvé de miracle. Mais Edith Stein, donc, qui est canonisée maintenant, donc une figure assez fascinante, une intellectuelle juive, première docteure en philosophie d'Allemagne. Et elle était chez des amis, et elle avait une insomnie sur la table de chevet, dans la bibliothèque, elle trouve l'autobiographie de Sainte Thérèse d'Avila. Elle lit ça pendant la nuit. Et le matin, quand elle repose le bouquin, elle dit « Ceci est vrai. La vérité est là. Contenu pour l'intelligence. » Donc elle a été très frappée par ce témoignage de la vie de Thérèse d'Avila, qui était beau, et qui correspondait à son âme assoiffée de vérité et de... Voilà. Alors, j'ai pas trouvé, alors, pourtant, si vous le trouvez dans d'autres biographies, vous me l'indiquerez, j'ai pas trouvé chez elle de ce que j'ai trouvé chez d'autres, pour les signes, les miracles. Par contre, j'ai trouvé la rencontre avec la charité de l'Église, la troisième colonne, et Reinhard. C'est des amis, son ami Théodore, je crois, Reinhard, était un des autres assistants de Husserl, le fondateur de la phénoménologie. Et il est mort à la guerre, 14-18. Et elle était chez sa femme. La femme de Reinhard. Et elle a vu la réaction de son ami. Ils étaient déjà chrétiens, je pense au moins protestants, convertis, peut-être même catholiques, peut-être, en tout cas chrétiens. Et quand elle a vu la façon dont son ami a vécu l'annonce de la mort de son mari, elle s'est dit, c'était ma première rencontre avec la croix du Christ. La rencontre avec l'amour crucifié. Et c'est impressionnant. Hein. Il y a toujours une rencontre comme ça. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme autre exemple? Bon, Claudel, alors lui... Je ne dirais pas qu'il a vendu sa conversion, mais enfin, il l'a écrit. Alors, Claudel, où est-ce que je l'ai mis? Est-ce qu'il est là-dedans? Oui, 1868. Paul Claudel. Alors, première colonne, j'ai mis, vous voyez, la rencontre avec la vérité, c'est assez curieux, parce qu'il y a l'Évangile, très souvent, hein, souvent Saint Jean, ou même la lecture comparée entre l'Évangile et le Coran, par exemple, ou le Capital, ou Mein Kampf, je ne sais pas où. Un bouquin, voilà, culte d'une idéologie. Quand vous lisez l'Évangile, c'est quand même assez différent. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même utile de le remarquer. Et c'est différent par le haut. Hein. Même des agnostiques comme Renan estimaient que c'est vraiment une des plus belles choses qu'on ait fait, au point de vue littérature chrétienne. Alors Claudel, lui, la case du milieu est tout à fait pleine, parce qu'il y a même, je crois, un panneau sur le poteau correspondant à Notre-Dame de Paris. Lui, bon, était agnostique de chez agnostique, hein, comme on pouvait l'être à son époque. Hein. Et lui, boum, pendant le Magnificat de Noël, il était venu le matin, par esthétisme. Hein. Beaucoup de gens ont été attrapés par l'esthétisme, et c'est bien fait pour eux. De l'esthétisme, ils sont passés à la beauté vraie et à la vérité de la beauté. Bon, et Claudel, ce qui lui arrivait. Boum, il a cru, à ce moment-là. Et toute son intelligence restait rationaliste, anticuré, tout ça, quoi. Donc il a fallu du temps après pour que ça descende. Mais bon, donc j'ai mis la phrase là. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence de l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. Ça, c'est magnifique aussi. J'ai un ami qui était au Mont Athos, enfin qui est converti pratiquement, je crois, en partie grâce au Mont Athos. En voyant les ermites du sud de la péninsule et le regard de l'un d'entre eux, il a écrit « Et je connus que Dieu était innocent ». Et je crois quand on voyait pas Padre Pio ou Foucault, c'est ça. Dieu est innocent. Parce qu'on passe son temps à l'accuser. Mais quand on voit un ermite comme ça, un gars qui vit en Dieu, et son regard. Donc voilà, il se convertit, boum. Donc, mais il y a eu des passeurs. Hein. Certaines fois, c'est pas seulement l'évangile, ce sont des gens qui amènent à la vérité par des passages. Hein. Un cas typique. Bon, là, curieusement, j'ai mis Rimbaud. Puis comme un grand poète, enfin, pas forcément hyper orthodoxe, c'est sûr, hein, le bateau ivre et tout, Et enfin, je l'ai trouvé, l'éternité, etc. C'est le ciel allé avec le soleil, allé avec le soleil. Avec quoi, il y a des choses tout à fait merveilleuses. Dans Rimbaud qui... Voilà. Et bien lui, Rimbaud, l'a contribué à le faire sortir du mécanisme et du rationalisme. Le symbolisme a joué un rôle, hein, Rimbaud, Baudelaire, chez beaucoup de ces gens-là. Et quelqu'un d'autre qui a joué un rôle important, c'est Bergson. Bergson a joué un rôle important, je ne sais pas si j'ai un cas ici, mais il y en a. Bergson, oui, Jacques Maritain, évidemment. Deuxième page, 1892, Jacques Maritain. Il n'y a pas que lui. Il y a des dizaines d'intellectuels des années 60, 70, 80, du siècle dernier, qui étaient complètement... Vous n'imaginez pas ce qu'était le rationalisme à l'époque. Hein. Même le nôtre, c'est comique. Hein, à côté, c'est hallucinant. Hein. Et ces gars-là sont passés de la Sorbonne, où ils se cassaient les pieds avec les rationalistes, au Collège de France, où Bergson, pareil qu'on le regardait rentrer, on entendait une mouche qui volait, qui leur a parlé de l'esprit, de l'intuition, et qui les a fait sortir du rationalisme. C'est un passeur, personne. Et Maritain, c'est typique. Maritain est sorti de son... Maritain s'était donné 2 ans avec sa femme pour se suicider s'il ne trouvait pas la vérité. Et c'est personne, et Bois, qu'ils ont... Bergson intellectuellement, et Bois spirituellement, qui les ont sortis du marasme. Et donc, vous voyez, Bergson est un passeur. Il y a un passage d'Henri Massis dans De l'homme à Dieu, qui disait à Pacelli, donc secrétaire d'État, futur Pie XII, Bergson nous a fait passer, nous a sorti du rationalisme pour nous amener vers le spiritualisme. Et ensuite, Charles Maurras nous a fait passer du vitalisme bergsonien à saint Thomas d'Aquin. Alors c'est assez impressionnant. Et Pacelli lui a dit, bon, vous lui en devez de la reconnaissance. Bon, je ne fais pas une hyper pub pour Charles Maurras, que j'admire certaines choses et qui m'énerve beaucoup sur d'autres. Mais bon, c'est un passeur. Moi, de toute façon, j'ai connu des gens qui sont passés par lui. Hein. Donc c'est évident. Voilà, c'est des gens qui ont... Et même actuellement, je connais des protestants suisses qui sont thomistes et maurassiens, quoi. Et dont l'influence fait passer des gens au christianisme ou au catholicisme. Bon, c'est des passeurs. Des passeurs de vérité. Et alors, il y a toujours un contenu de vérité. Par exemple, les convertis de... Il y a un converti anglais du communisme, là. Lui, ça a été le... La doctrine sociale de l'Église, qu'il a... Où est-ce que je l'ai mis, lui ? Voilà, Douglas Hyde, 1911, donc deuxième page. Hein. Les passeurs, pour lui, c'était Belloc et Chesterton, qui lisaient, il dirigeait le quotidien communiste anglais, pour les réfuter, donc il devait lire Belloc et Chesterton. Et c'est eux qui l'ont eu, quoi, si je veux. À force de lire, il s'est dit, tiens, quand même, faut dire qu'ils avaient oublié d'être bêtes, ces deux-là, hein. Mais alors après, dans le contact avec la charité, en fait, il l'a trouvé dans la doctrine sociale de l'Église. Bon, alors voilà pour les passeurs, ben vous pourrez vérifier. Il y a toujours, quelquefois, une mosaïque, par exemple, Thomas Merton, bon, lui qui est un savéo et débat, et ça se termine mal, Thomas Merton, mais enfin, il y a un beau passage au milieu de sa vie. Hein, et c'est une mosaïque de Côme et Damien qui était le déclic, quoi. Bon, chacun a son élément. Beaucoup aussi, c'est la beauté de la liturgie, le grégorien, les primitifs italiens, des choses comme ça, ou la liturgie. Il y a des choses, c'est Saint-Exupéry qui n'a pas complètement fait le pas, mais qui disait, bon, si j'avais la foi, je ne supporterais que Solène. Mais plein chant, pleine voile, ça allait tout droit quelque part. Oui, c'est Simone Veil qui venait faire de la traite à Solène, qui est mort proche du christianisme, du catholicisme. Voilà, la beauté de la liturgie très importante. Ou les bénédictines de la rue Monsieur qui ont joué un rôle capital dans la conversion d'une partie de l'élite bourgeoise aristocratique parisienne de l'entre-deux-guerres. Avec un mouvement considérable de convertis, hein, il ne faut pas l'oublier. Quand on lui dit l'Église était malade, d'accord, mais elle était malade en bonne santé par rapport à... Il y avait des maladies, mais enfin, il y avait aussi des dynamismes. Hein. Alors maintenant, la colonne du milieu, c'est le miracle. Oui. Le miracle, hein. Ou bien le miracle, bon, le rêve, le miraculeux, le ceci, le cela. Quelquefois, c'est des miracles purs et simples. Georges Desvalières, qui a été passé par Huysmans et Sertinange, si je veux dire, au point de la vérité, lui, en première page, là, 1861, il a entendu des voix à Notre-Dame de Victoire. En voilà assez, tu vas rester le credo, là, le fond sur la pierre, après tu rentres dans le confessionnal. Donc il a entendu ça dans sa tête. Bon, donc des miracles, il y en a peut-être plus qu'on ne le croit. Alors moi je suis assez pour les miracles, de toute façon c'est le bon Dieu qui décide. faut pas non plus être abavé après les miracles et courir après toutes les apparitions. Hein. C'est le miracle là pour maintenir l'ambiance, quoi. Mais c'est pas l'essentiel du christianisme. Enfin, il est utile. Et en particulier pour les gens isolés, en particulier en terre, au Moyen-Orient, quand vous avez aucun contact avec les prêtres parce qu'ils vous fuient, parce qu'ils mettent en danger leur communauté si vous leur parlez, ou si on vous voit trop leur parler, ben, qu'est-ce qui se passe? Comment ils peuvent se convertir? Les gens, ils ont des miracles. Ou la Sainte Vierge apparaît au-dessus d'une église copte ou bidule, machin, quoi. Voilà. Bon. Et alors, il y a, ou quelquefois, c'est des signes providentiels, vous voyez. Willy Brodt-Verkade, là, un artiste, donc 1863, il était en Bretagne, parce que la Bretagne, les Bretons le savent, c'est beau, surtout le Morbihan. Bon, il était dans ce coin-là, mais tout le reste aussi, bien sûr. Mais donc, pour faire des tableaux, machin bidule, et puis il va à une messe. Bon, une messe, une bonne messe, quoi, avec les... Je sais pas s'il y a des coiffes dans ce coin-là, oui, je crois, à l'époque. Moi, j'ai vu des messes avec les gens en coiffe, hein. Bon, bourré de gens et tout, puis à un moment donné, tout le monde se met à genoux. Ah, lui, il tombe à genoux avec les autres. Et là, il a craqué, quoi. Oui. Là, c'est très intéressant. Et après, donc, voilà, il y a des signes. Il y en a un qui échappe tout juste à un accident. Par exemple, Henri Guéon, oui, bon, lui, c'est Frangelico, le passeur, à mon avis. Hein, la beauté de Frangelico, patron des artistes, bien sûr. Tout le monde sait ça. Et alors, lui, c'est incroyable, c'est un rêve de Gide. Gide, c'est pas un peu une église, hein. N'était pas. Bon. Voilà. Mais Gide était un type très intelligent. Il a eu un rêve qu'il a raconté après un ami qui, où il voyait justement Guéon qui se séparait de lui avec le chapelet à la main, etc. Et c'est bon, ça a joué un rôle. Non. Et après, il a rencontré deux catholiques remarquables, Pierre et Mireille Dupouet, dont je crois l'un est mort à la guerre. Mais l'exemple de ce type, bon, l'expérience du front aussi a joué beaucoup. L'héroïsme des prêtres sacerdotaux, des catholiques et tout, au contact des agnostiques pour qui c'était des planqués, bon, ça... Voilà, donc il y a tout un chemin. Et puis alors, donc, dernier point, la rencontre de la charité, ça c'est important. Il faut rencontrer la charité, l'amitié qui se transforme en charité, et l'Église. Par la rencontre avec l'Église est très souvent... Bon, il y a la liturgie, bien sûr, hein. Il y a le contenu intellectuel, d'accord. Mais je dirais concrètement, c'est la charité. C'est pour ça que c'est important de pousser nos jeunes et vous, dans la mesure où on peut, à développer ce volant de notre action, populaire ou que sais-je, enfin, de s'occuper des drogués ou des paumés. Il y en a ici, d'abord, ça nous fait comprendre notre richesse à nous, hein, intellectuelle, spirituelle, quoi. On perd son temps, mais c'est bien. Alors nous, l'avantage, c'est qu'on abîme, forcément, les gens se confient, quoi. Un jour, il y en a qui vient me voir, moi je me dis, tiens, il va me taper. Je ne cherche pas trop à avoir de la monnaie dans la poche parce que ça part automatiquement, quoi. Et le type vient, bon, je voyais, il était nord-africain. Je dis, bon, vous voulez me demander quelque chose? Il dit, non, vous inquiétez pas, j'ai une profession, j'ai fait Sciences Po, me dit le gars. Et après, on a une bonne discussion. Je dis, mais quand vous allez discuter avec moi? Il dit, à vous les chrétiens, vous écoutez. Ça m'a beaucoup ému, quoi. Toi, j'étais pressé, j'allais voir quelqu'un avec vous. D'un consacré, et puis on s'est embrassé quand on s'est quitté, quoi. Mais vous priez pour lui. Moi, j'en ai souvent. J'ai une petite liste de Fioretti dans le métro, quoi. Une fille qui m'aborde, irakienne. Mon père, est-ce que je peux vous parler? Ben, bien sûr, alors on se met dans un pain, mais c'est un changement où les gens défilent. Hein. Et bon, elle me croit. Est-ce que tu peux me confesser? Elle me dit, mais est-ce que tu es baptisé? Non, bon, la discussion commence. Ça se terminait, elle m'a embrassé le chapeau. Donc évidemment, nous, bon, c'est facile, parce qu'on est assez visible, surtout avec l'habit qui est assez spectaculaire. Hein. Mais en soutane aussi, on a plein de discussions. Mais bon, il n'y a pas que nous, hein, au boulot, etc. Et le contact de la misère spirituelle, humaine et intellectuelle fait prendre conscience de la richesse, quoi. Pour nos jeunes, c'est important, parce que surtout dans des régions comme ici, où on a la chance d'avoir des groupes dynamiques, ou Versailles, ou tout ça, c'est peut-être en allant vers les mecs complètement largués qu'ils se rendent compte de tout ce qu'ils ont, et que richesse. Alors, la charité, quoi. La charité, quelquefois très concrète, quoi. Des gestes de proximité, la petite vieille du... On n'a pas de nouvelles du second, ceci, machin, bidule. Alors ça, mon expérience, évidemment, bon, voilà, les évangélistes sont très forts là-dedans, quoi. Et il faut que... Nous aussi, les catholiques, on est bons, mais il faut s'en soucier. Hein, le développement de l'amitié, hein, les contacts, évidemment, qu'on a, et puis la charité, carrément, sous forme des œuvres. Autrefois, je ne mesurais pas l'importance que ça a. Mais ça a une importance capitale. 50 ans après, Il y a des Nord-Africains qui disent « Ah, ben, vous êtes en blanc, c'est bien, ça me fait penser au père blanc de mon bled et des sœurs blanches qui nous enseignaient, qui nous soignaient. » Les sœurs qui nous soignaient, quoi. Et ça marche, quoi. Donc, vous voyez, une rencontre de la charité qui est extrêmement émouvante. Alors, c'est souvent des pères ou des prêtres, enfin, ou pas, ou des ménages, ou... Foucault, c'est Uvelin, quoi. La charité de l'Église, c'est... Mettez-vous à genoux et confessez-vous. Enfin, il faut être gonflé pour dire ça, quand même. Hein. Il arrive, je voudrais parler, je cherche la foi. Et... Bon, Uvelin a une façon... T'as un caractère assez particulier. Hein. Mais t'es un génie, je pense. Une sorte de génie. Il devait être un peu pénible, comme souvent les génies. Mais après, il était gonflé, bon, à genoux, confessez-vous. Ça. Mais alors là, il faut sentir le coup. Il hein. Faut pas que tous les jeunes prêtres fassent le coup n'importe comment. Certains, ils peuvent se prendre une baffe ou un coup de matraque. Hein. Bon. Quelquefois, la fiancée, évidemment. Oui, là aussi, il y a tout aussi le registre de l'amitié conjugale qui peut être aussi un chemin. Mais voyez, par exemple, les maritains, c'est ce cinglé de bois. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est un cinglé sympathique, complètement échevelé, quoi, avec des trucs. Ils ont été bouleversés par la charité de Léon Blanc. C'est un type qui crevait de faim, bien. De vrai, c'est parce qu'il a... Oui, Raissa a envoyé un billet, quoi. Il a vu la femme pauvre, il envoie un billet. Ah, alors Léon Blanc, une bafouille énorme et tout. Bon, tac, ils vont le voir. Ça les a sauvés. Il a été leur pendant. La charité de cet homme. C'est incroyable, quoi. Donc, vous voyez, c'est bien, on ne perd pas son temps en étant... Charitable, c'est à s'occuper des gens comme personne, quoi. Vous voyez, comme... Je vais vous faire une confidence de converti. Enfin, peut-être d'autres vous la feront aussi. Quand on se convertit, les gens commencent à exister. Enfin, moi, ça a été mon expérience. C'est, tiens, ils ont une valeur en eux-mêmes. C'est pas simplement une toile de fond sur un univers qu'on cherche à comprendre ou à optimiser et tout. Ils ont une valeur en eux-mêmes. On les regarde comme des êtres qui ont de l'intérêt. Et on leur parle, on les écoute. Mais ça, la découverte du prochain, vous voyez, nous, ça nous paraît un peu, parce qu'on nous répète, il faut aimer le prochain et tout, bon, ça devient un peu bateau, quoi. Mais c'est miraculeux. Pour Nietzsche, l'amour des autres est contre nature, pour Sartre aussi, d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'avec notre péché et tout, c'est qu'un peu surnaturel d'aimer les gens comme des personnes. Bon, qu'on aime leur qualité, la beauté d'un être, son intelligence... L'agrément de la conversation, les résistants. Il joue bien au bridge, ou il danse bien, ou bien il monte très bien à cheval, ou bien il raconte des histoires très passionnantes sur la guerre d'Indochine. Alors on aime ça, quoi. Voilà, mais tant mieux. Ouais. Mais alors, est-ce qu'on aime que des qualités? Ou est-ce qu'on aime la personne? L'amitié, c'est aller plus loin que les qualités. Même Aristote avait senti. Hein, il y a un choix, j'en choisis lui, hein, dans l'amitié. Et bien nous, les chrétiens, on aime d'amitié tous les êtres vivants. Au moins pour qu'ils viennent à la charité, qu'ils aient le bonheur qu'on a. Et c'est donc qu'ils commencent à exister, c'est très émouvant. Très émouvant. Les êtres commencent à exister. D'où la charité de l'Église primitive. Vous voyez, ils étaient entre eux, ils étaient... Voilà. Et les convertis, dans les groupes de convertis, ils disent, mais vous ne vous rendez pas compte ce que c'est d'avoir rencontré le Christ, on peut être toujours avec lui, et puis là on a nos frères chrétiens... C'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Voilà. Rencontre de la charité. Alors maintenant, dernier point. Chercher ceux qui cherchent. Donc là, maintenant, il s'agit d'aller vers les gens. Mais vers lesquels? Alors ça, c'est un slogan qui est de moi. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. C'est mon idée, il faut chercher ceux qui cherchent. Alors j'étais content parce que j'ai trouvé que Michel Biot, donc un ancien protestant qui s'est converti, dit la même chose dans son dernier bouquin. Il est aumônier de prison, il est vicaire épiscopal du diocèse de Blois. Il est aumônier de prison et il dit, bah, écoutez, la vie est courte, hein. Je ne suis pas éternel et mon temps est compté sur cette terre. Donc avec ces détenus, il a trois conditions qu'il applique. Justement, j'ai fait cet exposé à des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre, dont l'un est aumônier de prison, et j'ai demandé est-ce que les conditions de Vio vous paraissent raisonnables. Il m'a dit parfaitement. Trois conditions, je crois que je les ai mises. Condition d'une rédemption possible pour un détenu. Avoir reconnu sa faute et la nécessité d'une peine. Ça fait le tri, hein. Et il y en a quand même pas mal, hein. Plus qu'on pense. s'être remis en question complètement. Là, la prison vous aide, hein, je peux vous dire. Par expérience indirecte. Avoir éprouvé le besoin de Dieu au travers de l'exercice de la prière et de l'appréhension du caractère sacré des sacrements. Alors, plus ou moins, évidemment, il faut être large, hein, dans l'application de ces idées. Mais il dit, quand je vois un gars comme ça, alors je cible sur lui. Je consacre plus de temps, je viens le voir davantage, etc. Il voit tout le monde. Hein. Mais, et je crois que c'est pareil dans notre apostolat. Nous. Il faut sentir qu'il y a une soif. Quoi. Il y a des gens dont on semble, plus ou moins discrètement, qui sont demandeurs. Hein. Et donc, c'est ce qu'on appelle le kairos, c'est-à-dire le temps favorable. Il y a des temps, des lieux, des appels implicites, hein, de gens qui ont besoin de notre présence, de notre parole, de notre affection, qu'on leur passe un bouquin, qu'on leur dit viens à cette conférence, ou viens discuter avec le père Intel qui vient de dîner, ou je sais pas quoi. Oui. Et ces gens-là, il y en a, ils cherchent. Oui. Et c'est vrai que, moi j'ai mis trois choses qui peuvent provoquer la recherche, hein. L'épreuve, le vide et le service. Bon, il y en a d'autres sûrement. Mais, alors l'épreuve, l'homme éprouvé est plus disponible. J'ai mis trahison, souffrance, prison, hôpital. Ça fait du monde, hein. Moi, je regrette que on devrait nous donner davantage, nous, les d'apostolat, d'hôpital et de prison. Parce que là, la question du rite est moins prenante, quoi. Et il y aura un boulot énorme à faire. Parce qu'évidemment, là, les gens sont quand même très... Je vais vous lire un texte d'Alexandre Solzhenitsyn dans l'archipel du Goulag. L'expérience de la prison. Alors, il est frappé parce que les auteurs russes qui parlent de la prison, il le dit, voilà, ceux qui en parlent étaient soutenus. Enfin, tous les écrivains qui ont parlé de la prison sans y avoir été se sont cru obligés d'exprimer leur sympathie aux détenus et de maudire la prison. Moi, j'y suis resté suffisamment, j'y ai forgé mon âme, et je dis sans embâge, béni sois-tu prison, en majuscule, hein. Béni soit le rôle que tu as joué dans mon existence. Alors, vous savez qu'il s'est tapé 8 ans de goulag sévère, hein, même peu, quelque chose comme ça, plus l'assignation en résidence. Et il y a une phrase magnifique, hein. Bon, il dit, d'accord, il discute avec les détenus, d'accord, tu n'es pas coupable vis-à-vis de l'État ou de la société, parce que tu es condamné injustement, mais vis-à-vis de ta conscience, et vis-à-vis d'un tel et un tel. Sur la paille de la prison, j'ai ressenti pour la première fois le bien remué en moi. Extraordinaire. Sur la paille de la prison, j'ai ressenti pour la première fois le bien remué en moi. Jadis, tu t'étais montré violent dans ton impatience, toujours pressé. Continuellement, le temps te manquait. Or, aujourd'hui, tu en as plus qu'il ne faut. Tu en es saturé, tu as des mois et des années par devant toi. Tel un flux bienfaisant et apaisant se répand dans tes artères la patience. Naguère, tu n'aurais rien pardonné à personne. Tes condamnations étaient aussi implacables que démesurées tes éloges. Aujourd'hui, tu n'aimais plus de jugement catégorique, car ils sont fondés sur la douceur et la compréhension. Tu as mesuré ta faiblesse, tu peux comprendre celle d'autrui, tu peux admirer la trempe d'autrui et vouloir l'imiter. Tant d'autres d'entre nous le reconnaissent, c'est précisément en captivité que pour la première fois nous avons appris l'amitié authentique. Et c'est vrai que ça peut être une chose assez... C'est un moment où les gens sont affrontés à eux-mêmes. Quoi. Moi, j'ai eu l'occasion de... Je prêche des retraites sur les mystères du rosaire. Vous trouvez des petits papiers là-dessus. La prochaine a lieu tout près d'ici, au mois de mars, hein, à Poissy. Il y en a 5 par an, c'est formidable, cette retraite du rosaire. Si vous avez fait l'exercice Saint-Ignace, ça vous plaira. Si vous n'avez pas fait, ça vous plaira aussi. Donc faites la retraite de Dieu. C'est un complète prêtre. Voilà. Donc, je prêchais à la retraite du rosaire. Ça fait pas combien, je l'ai fondé en 79. Ça fait un bail. J'ai dû prêcher à 1500, 2000 personnes. Et bien, un jour, j'ai eu un truand. C'était pour couvent, à l'époque, on était 4 ou 5 retraites. 13 ans de prison, droit commun. En 80. Donc, attendez, le gars, il avait au moins étranglé quelqu'un. Enfin, fait un truc pas gentil. Bon. Mais après ça, il était sympa, je me souviens de son prénom et tout. C'est un de mes confrères qui me l'a envoyé. Il a fait la retraite, il a bien fait la retraite. Alors, il était à la santé, bon, je trouve que je connais un peu la santé, il a raison que ce soit trop long de vous expliquer. Et donc, il me parlait de la santé, etc., de l'aumônier, qui est un dominicain, bien sûr, d'origine hongroise, le père Dévoyode, et qu'il aimait bien, qu'il admirait. Et alors, il m'a dit, mon père, moi, quand j'étais à la santé, je cassais la gueule au matin. C'est qu'il tapait sur les gardiens, en traduction publique, quoi. Le maton. Donc je cogne sur le maton, à l'époque c'était le mitard, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mitard cellule disciplinaire. Là, t'as rien. T'as rien du tout. Juste des trucs attachés pour que tu ne puisses pas t'étrangler. T'as rien. On te fout au mitard une semaine. Qu'est-ce que tu fais? Alors De Voyotte lui dit, bon, je te passe un bouquin, ça ils ne peuvent pas te l'enlever. Bouquin, le mec, c'est des conneries, paf, il envoie ça sur le mur. Bah, comme il n'a rien à foutre, il finit par lire le bouquin. D'accord? Mon père, je me souviens de toute sa phrase. Ce qui m'a frappé, c'est Luc 19, 10. La référence est juste. Le Fils de l'homme est venu pour chercher ce qui était perdu. Et j'ai compris, c'est moi. Ben, ce type-là, tout truand qu'il était, il était chrétien. Parce que je crois que tant qu'on n'a pas compris qu'on est perdu, on n'est pas chrétien. Parce que pour être chrétien, il faut être sauvé, donc il faut être perdu. Donc bon, je ne vous souhaite pas de passer au mitard pour découvrir ça. Mais c'était sympa, quoi. Bon, et puis en plus, ça m'a fait monter bon, l'aumônier que j'aimais bien déjà dans mon estime. Il a passé l'évangile, évidemment. Donc là, ça peut être un lieu, l'hôpital, la trahison aussi. La trahison est aussi un lieu de... Parce que ça sert à rien de s'enfermer dans la haine. La haine ne construit rien. Il n'y a que l'amour qui construit, mais l'amour peut être difficile. Hein, un peu. J'ai confessé dans un pays, après une guerre civile, je peux vous dire. Puis il y a des gens qui se demandent s'ils pardonnent. Hein. On pardonne dans la volonté, dans l'esprit, hein, pas dans l'affectivité. Et ça ne veut pas dire qu'on n'exige pas la justice. Dans certains cas, il faut l'exiger, c'est même tout à fait nécessaire. Mais il ne faut pas s'enfermer. Si on a été trahi et qu'on a tué nos parents, là, on est confronté à soi et à Dieu, quoi. C'est tout. Hein. C'est... Bon, il y a des petites trahisons aussi qui sont assez douloureuses, quoi. Mais elles sont permises par Dieu. Pas, elles ne sont pas voulues, hein, tant qu'elles sont des péchés. Pour nous mettre au contact de l'être. Simone Weil disait, la réalité est rugueuse. Simone Weil a écrit quelque chose d'intéressant. À mon avis, elle a une philosophie un peu inexacte, trop stoïcienne, trop... Elle admirait trop les Grecs et pas assez les Juifs. C'est curieux pour une Juive, mais c'est comme ça. Elle n'aimait pas la Bible, en particulier l'Ancien Testament, parce qu'il a introduit la notion de progrès. Donc elle était fascinée par l'univers statique des Grecs. Mais cependant, c'est un esprit très profond. Et elle avait remarqué, elle a dit, mais écoutez, la réalité est difficile. Et pour moi, la rugosité du christianisme est une preuve de vérité. Ce qui est tout sauf, c'est fou. C'est fou. Ratzinger dit la même chose dans une conférence en disant, une religion vraie doit rendre compte aussi de la souffrance et de la mort. Or, elles sont là. Elles sont vraiment là. Alors, c'est quelquefois une grâce de les rencontrer à 11 ans, quoi, ou à 12 ans, un peu après. Ou alors on se brise ou on passe, quoi. Hein, mais c'est des grandes choses aussi. Donc là, il faut aller vers ces gens-là. Ouais. Ça suspend le divertissement, le manque de temps en particulier, ça nous met en face de nous-mêmes. Il y a une autre voie aussi, c'est le vide. Assez curieusement, vous trouvez des gens très riches, bourrés de fric et tout, qui ont tout ce qu'ils veulent, et puis ils ont tout ce qu'ils veulent, puis ils s'ennuient. Et ils crèvent d'ennui. Alors, j'ai vu dans Famille Chrétienne, il y avait une série comme ça de témoignages de convertis, il y avait un type complètement bourré de fric, qui réussissait tout ce qu'il faisait, et qui, bon, qui vraiment déprimait complètement, parce qu'il se rendait compte de la vanité de... Voilà, qui a fait quoi, il a marché jusqu'à Compostelle, il s'est converti, il est catholique. Et ça, c'est frappant, vous voyez, c'est pour ça que l'envie des gens qui ont beaucoup de bien... beaucoup de réussite apparente, moi elle me fait un peu rigoler parce que quand vous avez roulé votre boss, hein, mettez ce mec là 3 semaines en tôle, hein, vous allez voir si c'est un grand bonhomme. Hein. Puis grattez derrière, quoi. Grattez derrière la façade, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il est heureux ce type-là? Bon, souvent il est agressif au massin dans les quartiers riches, les gens ils disent, bon, on fait des soins, on dit bonjour. Les bougnoules, les noirs, ils vous disent bonjour, enfin moi je leur dis bonjour donc ils me répondent, quoi. Mais dans le quartier à Paris, là, les mecs, ils s'en foutent, enfin ils s'en foutent, ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers de leur vie. C'est comme frappant, quoi. Si vous allez dans les pays, bon, si vous avez roulé votre boss, vous le savez, dans les pays, bon, moi, on est quand même frappé, quelquefois par la vitalité, paf, ça bouge et tout, ça. Et voilà, ils sont. Mais parce que trop de choses, vous voyez, nous protègent du réel. Donc et alors justement, il y a un sentiment, Dieu s'imprime en négatif, quoi. Il y a un immense sentiment de vide, d'insatisfaction, qui peut amener l'âme, vous voyez, qui peut, avec ce goût du néant, c'est une grâce négative, vous voyez, qui peut amener l'âme à... Ça a été un peu celle des maritains aussi, après avoir étudié toutes sortes de choses et tout, se rendre compte. Bon. Est-ce qu'il y a un sens dans cette existence, quoi? Et grâce à Blois, ils ont fini par le trouver. Donc je crois qu'il y a cette appréhension divine qui peut être un chemin. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas, avoir peur des gens fortunés à tout point de vue, parce qu'ils ne sont pas tant que ça. Hein. Ils ne sont pas tant que ça du tout. Et justement, moi, il faut aussi être à même de leur proposer un chemin. Alors, troisième voie possible, c'est le service. Ouais. C'est pousser les gens à s'occuper des autres. Oui, je pense que la grande objection, entre guillemets, difficulté à l'existence de Dieu, c'est l'existence du mal. Dieu est tout puissant, Dieu est infiniment bon, or il y a du mal, donc soit il n'est pas tout puissant, puisqu'il n'empêche pas, soit il n'est pas bon, etc. Alors c'est une difficulté, je vais peut-être vous étonner, mais en un sens il n'y a pas de réponse. Il y a une réponse si on veut, mais quand on la donne ça ne satisfait pas. Puis le type qui est vraiment dans la grande douleur, souvent n'y est pas réceptif. C'est d'une certaine façon le problème du mal moral est spéculativement insurmontable. Moi, je crois qu'il faut dire ça. Parce que c'est un trou. Alors, essayer de rentrer dans un trou noir, enfin, ceux qui connaissent un peu l'astrophysique, ça va dire peut-être quelque chose. C'est un truc dont rien ne sort, quoi. Mais ne passez pas à côté d'un trou noir, parce que vous n'en sortirez pas, quoi. Et le mal, c'est le trou noir de l'homme, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est dans l'être, mais c'est un trou. C'est pas quelque chose, hein. C'est une carence d'une chose qui devrait être là. Et donc, si vous commencez à le regarder, vous allez tomber dans le piège de Satan. Hein, nous obnubiler, c'est un truc, et vous êtes tombé. Alors, là, il n'y a pas de solution spéculative. Par contre, je crois qu'il y a des voies de libération pratiques. Tu souffres, fais du bien aux autres. C'est la seule solution. Fais du bien aux autres. Oui, les gens. Et je suis frappé de ça, c'est que les saints qui luttent contre le mal, même temporel, ne sont pas scandalisés. Mère Teresa ne dit pas, je perds la foi parce qu'il y a 1 milliard de Chinois qui ont faim. Et 500 000 hindous qui meurent, etc. Elle ramasse celui qui est dans la rue, là. Et du coup, elle prie pour les autres, et voilà. Et je pense qu'à notre petite échelle, qui est moins héroïque que Mère Teresa, hein, et que quelques autres à ce niveau-là, ou même Benoît XVI, mais une chose qui me frappe, là, moi j'ai entendu parler de lui les premières fois dans les années 70, et quand j'ai pris contact à certains de ses travaux, tout va mal, d'accord, mais faisons bien aux gens. C'est ça qui compte. Et c'est pas du tout une fuite, vous voyez. Et son exemple, peu à peu, moi je suis quand même frappé, ça a changé l'ambiance, son espérance, son exemple. Et alors, nous aussi, puis nos jeunes dépressifs et compagnie, quelquefois, il faudra dire, mais voilà, engage-toi dans une œuvre, ou occupe-toi des gens ceci, des gens cela, secours-les, aide-les. Et à ce moment-là, tu verras le monde d'une autre façon. Parce que ça va ouvrir ton cœur. Faire le bien dispose le cœur à la lumière. Je crois que c'est un élément très, très important. Le bien dispose... Il y a des pas comme ça, et souvent c'est comme ça que ça se passe. Hein. Le converti commence à... Bon, de toute façon, même s'il n'y a pas de sens à la vie, au moins que je fasse du bien aux gens, etc. Et alors après au contact, le simple fait qu'il fasse ça, c'est quand même particulier, quoi. Et peu à peu, il découvre la richesse de la spiritualité du geste qu'il est en train de faire. Il dit, si je fais du bien aux gens et que ça ne me rapporte rien, peut-être que le bien existe. Hein. Donc je crois que c'est une voie aussi. Et je pense qu'on doit, avec espérance, chercher ceux qui cherchent de ces différentes façons-là, et les pousser à chercher, et leur proposer, oui, quelquefois, il y a une timidité, quelques-uns d'entre nous sont quelquefois peut-être au contraire imprudents dans l'apostolat, mais souvent c'est une imprudence par défaut, c'est-à-dire qu'on est trop timide, qu'on n'ose peut-être pas assez proposer. Oui. Quelquefois, je ne dis pas bousculer, mais il faut être tellement convaincu que ça peut faire du bien que ça finit par être ressenti. Quoi. Enfin, moi, j'ai éprouvé ça, oui. Probablement vous n'avez pas cette conférence si j'avais pas un copain qui m'avait fait le coup et que j'avais craqué au deuxième whisky avec des glaçons. Hein, il dit, bon, allez, les gars, j'étais un groupe étudiant à l'époque, j'étais agnostique, mais enfin j'en avais marre d'être agnostique. Bon. Et alors il me dit, on va dans une abbaye pour la prise d'habit d'un d'entre nous. Bon, j'ai dit, d'accord, on y va. On va 5 jours avant. Il dit, attends, qu'est-ce qu'on va faire 5 jours avant? Il dit, les exercices Saint-Ignace. Il dit, attends, arrête ton truc. Bon. Puis il tape sur la table, il me dit, tous les types du CELU, ça s'appelait CELU mon groupe, tous les types du CELU vont à la retraite. Alors moi, je me lève de là, parce qu'il avait la pêche. Quoi. Puis c'était courageux physiquement, il était intelligent, c'était pas une brute. Donc c'est assez rare, un mec qui est courageux physiquement, qui est pas une brute. Bon, moi je l'admirais, bon, on était en 72, en 70, hein, donc c'est une époque encore assez chaude. Hein. Et bon, alors bon, whisky, allez, j'y vais. Bon. Troisième whisky, je suis... Bon, j'attendais un peu ça, mais s'il m'avait pas bousculé, moi j'étais frappé de son culot, quoi. Il dit, tous les mecs, on était quoi, on était... À l'époque, les gars qui se plaignent qu'on n'est pas nombreux aujourd'hui, ils vont rigoler, hein, parce que... Nous, on raclant les fonds de tiroir, on était peut-être 50 ou 100, à la fois à la Rodeo, et puis d'autres choses, bon, c'est tout, quoi. Bon, mais alors, on était peut-être 12 dans un groupe, hein. Tous les mecs, ils vont... Bon, d'accord, vas-y. Bon, et c'est à l'époque que je me suis retourné comme une crêpe, voilà, parce que je me disais, bon... S'il y a un truc qui est vrai, j'ai un peu regardé l'islam, bouddhisme, hindouisme, bidule, machin. Puis je suis à côté du catholicisme. Il y a des grandes choses dans l'hindouisme, dans le bouddhisme surtout, je pense. Mais bon, ça ne tient pas totalement la route. Quoi. Oui, parce que vous voyez, je crois que des fois on ne se rend pas compte. Si vous voulez, pour moi, même dans ma période agnostique, l'Église catholique romaine était la bienfaitrice du monde. Ça me paraissait évident. Étudier l'histoire, étudier la science, une formation scientifique, qu'est-ce qui a libéré l'intelligence scientifique, c'est saint Thomas d'Aquin, saint Albert, qu'est-ce qui est ça de la civilisation, baladez-vous dans le monde, regardez ce que a fait l'Église, hein, c'est quand même pas mal. Donc je me disais, il faut que je trouve un gars qui me prouve l'existence de Dieu, et s'il me prouve l'existence de Dieu, je me retourne comme une crêpe et je suis catho. Et de fait, je crois que... Il a bien fait de me pousser un peu, mais je veux dire que, vous voyez, les gens ont plus soif qu'ils ne pensent. Alors le tout, c'est un peu de réveiller la soif. Hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, je crois qu'un des problèmes qui est à affronter, c'est celui de l'excès du virtuel. Parce que là, autant ça peut être bien pour transmettre des messages pour aller à une manif ou autre, bon, mais il faudra que ça prenne trop de temps. Quoi. Que ce soit trop long, puis surtout, c'est... Bon, pour démarrer, on lit quoi? On lit une demi-page, quoi, mais quelquefois, il faut lire un peu plus, quand même. Bon. Donc à la fois, il faut l'utiliser, mais je crois que... Moi, j'ai pas résolu ce problème-là, mais vous êtes plus doué que moi, je pense, là. À vous de trouver comment utiliser ça intelligemment pour faire sortir les gens de la perte de temps et les amener. Bon, je pense qu'il y a des bons sites qui peuvent leur pousser à des bouquins, je ne sais pas quoi. Hein. Mais il y a des propositions à faire. Hein. Il y a plus de gens qu'on ne pense qui sont.
C'est un vrai problème, ça.
Oui, c'est un peu un problème. Ouais. Tout à fait.